Gloire à Dieu. Aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, on va parler de la fête de Pâques, que c'est une fête en l'honneur de Dieu le Père. Pourquoi que c'est une fête en l'honneur de Dieu le Père? C'est parce que c'est Dieu le Père qui a fait quelque chose pour cette journée-là, spécifiquement cette journée-là, la vraie journée de Pâques, qui a servi à libérer le peuple juif pour les empêcher de recevoir le jugement de Dieu. Et, ce qu'on va voir, c'était la même date que Jésus est mort. Puis là, on va voir les parallèles des choses que Jésus a faites, là, puis ce qui a été annoncé à la fête de Pâques, c'est lui l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. La Pâque s'est instituée, puis c'est une fête instituée par Dieu, parce que faut pas penser que la Pâque qu'on voit sur notre calendrier, là, que ça, c'est la vraie date. C'est pas la vraie date. Ça, c'est la fête de la Pâque catholique. La religion catholique ont changé la date de la fête. Ils ont changé le sens aussi de la fête. Nous, on veut parler de la fête de Dieu, instituée par Dieu. Que Dieu a institué une date précise. Puis, c'est une fête qui vient de l'Éternel. C'est Dieu qui a dit, faites cette fête-là. C'est pas une fête qu'on a inventée, comme Noël. Noël, c'est une fête qu'on a inventée. Mais la Pâque, c'est une fête que Dieu a instituée. Cette date précise-là est importante parce que Dieu, il a fait un message prophétique dans cette fête-là. Ça annonçait quelque chose à venir. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Puis c'est une fête qui vient de l'Éternel, puis en l'honneur de l'Éternel. On n'est pas là pour célébrer le chocolat, puis les lapins de Pâques, puis les œufs en chocolat non plus. Ça, là, c'est complètement déformé. Ça n'a aucun rapport avec la fête de Dieu, que Dieu a instituée, qui était pour l'honneur de Dieu. Pour toutes les réjouissances, il veut, moi, quand je pense à une fête, faut qu'on se réjouisse. On ne peut pas avoir dire qu'on est dans une fête, puis tout le monde... Tout le monde est triste, tout le monde a de la peine, tout le monde, c'est pas une fête, c'est une fête, c'est de la joie, puis de l'excitation, puis les ballons, puis tout, hein. On met pas de ballons à l'église, mais quand on chante de tout notre cœur pour louer le Seigneur, pour le célébrer, parce que c'est une fête. Dans Deutéronome 16:1, ça dit, observe le mois des épis. Là, on parle d'un autre calendrier, parce que nous, on est dans le calendrier grégorien, depuis l'an 600 quelque après Jésus-Christ, ils ont changé le calendrier, mais puis ils ont mis ça dans un autre calendrier qui s'appelle le calendrier romain grégorien. Puis on a nos mois qui sont des mois avec des noms de dieux romains, puis des jours avec, sont faites les planètes, puis tout ça avec les noms des planètes. Je veux pas vous expliquer ça aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, Dieu il avait dit au peuple juif de suivre le calendrier lunaire. Nous autres, notre calendrier, c'est un calendrier qui est basé sur le soleil. C'est un calendrier lunisolaire qu'ils disent. Puis c'est sur ce calendrier-là qu'on est présentement. Mais en parallèle avec celui-là, il y a le calendrier lunaire qui marche avec les lunes. À chaque nouvelle lune, c'est le jour 1. Puis ils ont le mois, puis ils ont des mois de 28 jours, des mois de 29 jours. Puis au bout de 4-5 ans, ils sont obligés de rajouter un mois parce que ça ne fait plus. Mais dans le calendrier, il y a un mois qui s'appelle le mois des épis ou le mois de Nissan. Parce que le mois s'appelle Nissan, mais ils appellent ça aussi le mois des épis parce que c'était le mois qui commençait la saison des cultures. Puis là, dans ce passage-là, dans Deutéronome 16:1, il dit « Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. » On le voit que c'est Dieu qui insiste qu'on fête cette fête-là en son honneur. En l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. C'est ce qu'on va voir tantôt. Comment est-ce que le peuple juif, dans le temps qu'il était comme en esclavage en Égypte, puis il était traité durement, comme vous pouvez avoir vu dans le film « Les 10 commandements », le peuple juif faisait de la brique, puis il pilotait de la boîte, mettait de la paille, puis il faisait des briques avec ça, puis il bâtissait des villes avec ça. Puis le peuple juif était dans une rude servitude pendant 400 ans. Puis là, Dieu les a envoyé un libérateur, Moïse, pour aller les délivrer. Puis c'était à cette journée-là, le jour de Pâques, que le peuple juif a sorti d'Égypte. Le 14 de Nissan, du mois de Nissan. La fête de Pâques biblique, c'est une fête qui dure 8 jours. Dieu il a institué cette fête-là. Le premier jour, c'est la 14 de Nissan. Ça, c'était la journée de la Pâque. Puis après ça, il y a 7 autres jours que c'est une fête pour ce qu'ils appellent ça la fête des pains sans levain. C'est pour se commémorer le temps qu'ils ont passé dans le désert. Je parlerai pas trop de cet événement-là. J'en ai déjà parlé. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la fête de Pâques comme telle. Ces 7 jours additionnels, il n'y avait pas le droit de manger de pain avec du levain. Puis cette année, la fête de Pâques, le 14 de Nissan, tombait mercredi qu'on vient de passer. Le mot Pâques, quand Dieu a appelé ça Pâques, ça, dans la langue hébraïque, ça veut dire « passer par-dessus ». C'est pas « Eastern ». « Eastern », c'est la fête moderne. Pâques, c'est plus le mot « Passover » qu'on entend aussi aux États-Unis, en anglais. Passover, passer par-dessus, c'est comme s'il a passé outre, il a épargné. Ça a le rapport avec l'événement qui s'était passé cette journée-là. Elle est instituée lorsque Moïse est envoyé par Dieu pour libérer le peuple juif lorsqu'il est encore en esclavage en Égypte. Dans Exode 12, le verset 27, ça nous dit, parce que là, Dieu nous a expliqué que si quelqu'un vous en parle de ça, c'est quoi ce fête-là? Il dit, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Puis là, le peuple s'inclina puis il se prosterna en entendant ça parce que c'est vraiment ce qui s'est produit. C'était grave, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte cette journée-là. On va en parler dans un autre passage. Mais le peuple juif a été épargné parce qu'ils ont fait ce que Dieu leur avait dit de faire. Le jugement du peuple égyptien qui gardait les Juifs dans une rude servitude était déjà prononcé par Dieu. Puis là, c'était déjà prévu dans son plan qu'il allait chercher Moïse. Puis Moïse a été utilisé par Dieu pour manifester 10 plaies en Égypte. Si vous écoutez le film des 10 commandements, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, si à soir à 8 heures, c'est supposé jouer ce film-là, ça va vous donner une idée. Ben moi, je vous conseille plus d'aller le lire dans la Bible parce que les films, c'est des fois, il y a des affaires modifiées. C'est romancé. Si vous voulez savoir 100% de ce qui est vrai, lisez-les dans la Bible, dans Exode. Puis là, Dieu avait déjà prononcé son jugement pour le peuple égyptien. Puis là, il avait décidé d'utiliser Moïse pour les 10 plaies d'Égypte. On voit ça dans Exode 6, le chapitre 6, verset 6. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus puis par de grands jugements. Parce que c'est des grands jugements. À la 10e plaie, parce qu'il y a eu 10 plaies que Dieu a frappé les Égyptiens. À tout bout de champ, le pharaon était là, c'est correct, vous pouvez vous en aller rendre des sacrifices dans le désert. Puis à la dernière minute, non, allez-y plus, puis je veux pas vous y aller. Il changeait d'idée à chaque fois, mais à chaque fois, Dieu était obligé de refaire un autre plaie sur le pays. Puis pas des petites affaires. Il a changé l'eau complète dans le pays en sang. Puis il n'a plus rien à boire. Après ça, il a fait monter des grenouilles, il a fait envoyer des poux. Puis là, on ne parle pas de 2-3 poux. Là. Le pays est infesté de poux. Des sauterelles qui ont mangé toutes les récoltes, de la grêle qui a détruit toutes les récoltes. Il y a toutes sortes d'événements extraordinaires, mais pas des petits. Si vous allez lire ce qui est écrit dans la Bible, vous allez apercevoir que c'était grave. Il est en train de détruire tout ce qui était de beau dans le pays. Jusqu'au 10e jugement, la 10e plaie, qui était la plus pire de toutes. À la 10e plaie, Dieu a dit au peuple juif, puis c'est là qu'il a institué cette fête-là de la Pâque juive, là. Il a dit de prendre un agneau d'un an pour le manger, mais aussi pour prendre son sang de cet agneau-là, pour le mettre sur le cadrage de leur porte, pour être protégé. Ça, c'est pas que le sang d'un agneau est spécial, puis est puissant, puis il va te protéger. Allez pas vous acheter un gigot d'agneau pour mettre du sang sur le cadrage de vos portes, ça n'aura aucune efficacité. C'est une question d'obéissance, à ce moment-là, pour être protégé. Ce que le peuple juif a fait, ils ont obéi au Seigneur par la foi. Ils ne savaient pas pourquoi qu'ils prendraient ça, là. Ils ont pris ça, il fallait qu'ils mangent ça d'une telle façon. Dieu les avait tout dit qu'est-ce à faire dans cette nuit-là. Puis là, il dit, vous allez mettre le sang sur le cadrage. Puis là, il nous a expliqué qu'il enverrait un ange exterminateur pour aller tuer le premier-né de chaque famille en Égypte qui n'avait pas mis du sang sur le cadrage de leur porte. Dieu a annoncé d'avance le jugement, puis il leur a dit, faites ça si vous voulez être épargné du jugement. Dans Exode 12:6, ça nous dit, vous garderez l'agneau jusqu'au 14e jour de ce mois, qui était le mois de Nissan, le mois des épis, et toute l'assemblée d'Israël l'émollera, le brûlera, le fera cuire, un michoui à l'agneau. Immoler, c'est un michoui. L'immolera entre les deux soirs, parce que quand une fête était instituée dans le peuple juif, mettons, on est le 14 de Nissan aujourd'hui, la fête commençait hier soir à Brunante, puis ça finit à Brunante le soir du 14. Fait que c'est entre les deux soirs, il y avait tout le soir et la nuit, puis la journée pour manger cet agneau-là. C'est ce soir-là que Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples. Ce qu'on voit dans les évangiles. Puis qu'il a passé la nuit debout, puis il a été capturé dans la nuit, là, quasiment le matin. Puis il a été torturé dans le jour, puis il est mort l'après-midi. Il a dit, on prendra de son sang, puis on le met sur les poteaux de la porte, puis des linteaux de la porte, où l'on le mangera. Dieu a fait une promesse de protéger de l'ange exterminateur tous ceux qui mettaient le sang de l'agneau sur leur corde de porte. Parce que le jugement y était annoncé, c'était la 10e plaie pour l'Égypte. Puis c'était la plaie que tous ceux qui n'avaient pas de sang sur leur cordage parce qu'ils ne croyaient pas en ce que Dieu avait dit, fait que l'ange exterminateur était frappé, le premier-né de chaque famille, frappé de mort. Dans Exode 12:12, ça dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » C'est là qu'on voit le plan merveilleux de Dieu, que si quelqu'un avait pris le sang de l'agneau qui venait avait été tué pour le manger, puis a mis ce sang-là, ça le protégeait du jugement de Dieu, cette journée-là. Puis quand Dieu passera par-dessus, là, puis qu'il voit le sang, puis il passe par-dessus, il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Fait que Dieu avait fait une promesse à ceux qui ont des oreilles pour entendre. La promesse était donnée, ça aurait pu être même un Égyptien qui aurait pris le sang et aurait été protégé. L'important, c'est qu'il y ait le sang qui soit sur le cordage. C'est le signe que Dieu voulait voir, un signe de foi. Dieu ne faisait pas de blagues. Quand Dieu dit quelque chose, ça va arriver. Tous ceux qui n'ont pas obéi à faire le sacrifice de l'agneau et à mettre le sang ont été frappés par l'ange exterminateur. Les premiers-nés de chaque famille ont péri dans toute l'Égypte. N'as-tu ici des premiers-nés? Merci Seigneur qu'il ne nous ait pas fait cette ce coup-là dans le sens de dire, parce que moi aussi, j'étais le premier-né. Je suis pas sûr, je ne sais pas si mes parents auraient obéi. Je pense pas. Nous autres, on sera considérés comme ceux de l'Égypte qui connaissent même pas l'Éternel. On est en train de servir des faux dieux. Dans Exode 12, verset 29, « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. » Imagine-toi. Jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui ou tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, puis il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison qu'il n'y eût un mort. Tu vois que Dieu riait pas. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il faut écouter. Ça, là, c'était l'institution de la Pâque. Le 14 de Nissan, c'était une date, oubliez pas cette date-là, c'était une date dans le calendrier lunaire que Dieu a frappé de son jugement tous ceux qui n'avaient pas mis le sang de l'agneau sur le cordage de leur porte. Là, on va rentrer dans des explications, qu'est-ce que ça a leur rapport avec Jésus dans la Nouvelle Alliance, avec nous aujourd'hui aussi. Ce qu'on voit dans la Bible, dans la suite des temps, il y a eu des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Il y a des prophètes qui ont annoncé d'avance la venue d'un agneau qui souffrirait pour nos péchés. C'est là qu'on rentre dans quelque chose d'annoncé encore. Puis on parle de centaines d'années avant que Jésus vienne, là. Dans Isaïe 53, le verset 6. Puis il y en a un autre passage en Jérémie que je ne lirai pas, mais qui a rapport à l'agneau qui était pour venir. Nous étions tous errants comme des brebis. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, qu'on était des brebis. L'Église, c'est la bergerie. Puis le Seigneur, c'est le berger. C'est le pasteur. Mais avant, on était des brebis égarées. Mais là, il parle, nous étions tous errants comme des brebis. Des brebis errantes, des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, en parlant de quelqu'un, là, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Ça parlait de qui? Ça parlait de notre Sauveur. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, puis il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas chiolé, il n'a pas critiqué, il ne s'est pas ostiné. Il a accepté son châtiment parce qu'il savait que le châtiment que le Messie est en train de subir, là, c'était pour prendre nos péchés à nous. Notre châtiment qu'on devait mériter, là, c'est lui qui le payait à notre place. Le Messie, Yeshua, a été présenté par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu envoyé comme sauveur des péchés du monde. Jean-Baptiste, là, ça le dit dans les prophéties, ça annonçait que Jean-Baptiste viendrait, ça annonçait que Jean-Baptiste était pour préparer le chemin du Seigneur, de préparer le chemin de Yahweh, de Dieu le Père, que ça dit dans l'Ancien, dans la prophétie. Yeshua, c'est Dieu le Père qui est venu en forme humaine. Puis quand Jean-Baptiste est envoyé, il ne savait pas c'est qui était pour être l'agneau de Dieu. Il savait qu'il était pour le voir puis le présenter aux autres. Puis celui qui avait envoyé Jean-Baptiste, il a dit, celui sur qui tu vas voir la colombe descendre, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui le sauveur. Fait que quand Jésus s'est été se faire baptiser, la colombe est venue puis elle s'est déposée sur lui. Le signe était révélé. C'était le Messie, c'était Yeshua, le Messie, Jésus. Puis quand le lendemain de ce qu'il a vu ça, ça dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Fait que là, le monde dans ce temps-là ne va pas comprendre, à moins qu'il connaissait le passage prophétique de Isaïe 53 qui disait qu'il y aura quelqu'un qui serait là, qui prendrait les péchés des autres puis qui expirait. Mais lui-même, je ne sais pas si Jean-Baptiste, sur le coup, comprenait ce qu'il disait, mais il annonçait quand même, ça nous est resté par écrit aujourd'hui. Il annonçait que c'était Jésus, l'agneau de Dieu. Vous allez comprendre c'est quoi après ça plus loin dans le rapport qu'il y a entre Jésus puis l'agneau dans la fête de Pâques qui a eu du sang de mis ses cordages de porte. Yeshua le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, est mort le même jour que le sacrifice de la fête de Pâques avait été ordonné par Dieu, le 14 de Nissan. C'est là que c'est fort. Dieu, quand il a choisi cette date-là, le 14 de Nissan, là, il savait qu'est-ce qu'il était pour faire 2000 ans plus tard, ou 1500 ans plus tard. Il savait qu'il était pour envoyer son fils, ou descendre lui-même, Dieu descendu en forme humaine, puis il était l'agneau de Dieu. Puis le même jour, il était appelé l'agneau de Dieu, puis le même jour, le 14 de Nissan, Jésus expirait sur la croix, le même jour que l'agneau était dépecé, prendre son sang, puis le mettre ses cordages de porte. Le même jour, Jésus a versé son sang pour pardonner nos péchés. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui est venu exactement la même journée. C'est pas un hasard. C'est calculé par Dieu, puis c'est ça une prophétie. Quand Dieu annonce quelque chose prophétique, c'est qu'il annonce d'avance par soit directement ou indirectement, que telle affaire va arriver telle date. Il annonce des affaires. Dieu a annoncé plein d'affaires dans la Bible qui vont arriver. Mais celle-là, c'est annoncé que le Messie est mort cette journée-là. C'est pas un hasard. C'est Dieu qui avait tout en contrôle les situations. Dieu y annonce que c'est grâce au sang de l'agneau de Dieu, Yeshua, que nous sommes maintenant sauvés du jugement éternel de Dieu pour nos péchés. Autant que les Juifs ont été sauvés du jugement de Dieu parce qu'il y avait le sang qui était sur le cadrage de porte, autant qu'aujourd'hui, depuis 2000 ans, celui qui a le sang de Jésus sur lui parce qu'il a donné sa vie au Seigneur, il a été pardonné, puis Dieu regarde, puis il voit le sang de Jésus, puis il sera pas jugé. Il sera pas envoyé dans les temps de feu. Le sang de Jésus fait plus que nous sauver du premier-né de notre famille. Il nous sauve de notre âme, notre propre vie, de nous permettre de vivre dans l'éternité avec lui. Dans 1 Pierre 1, 18, ça dit, « Sachant que c'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » J'ai pas parlé de cela, mais quand que les Juifs prenaient un agneau, il fallait pas que ça soit une bête infirme ou malade, ou tu sais, fallait que ça soit une bête sans défaut et sans tache. Sans tache, ça veut dire qu'elle est tout blanche. Mais c'est la même chose, Jésus, il était sans défaut et sans tâche, il n'a fait aucun péché. C'est ça le rapport. Puis c'est par son sang précieux de l'agneau de Dieu que là on a été racheté. Depuis 2000 ans, le Christ est la raison de fêter notre Pâque. C'est lui qui a versé son sang pour nous sauver. C'est notre Pâque. Nous croyons au sacrifice de Jésus, donc cette journée-là de sa mort, parce que Pâques, c'est pas la résurrection, Pâques, c'est la crucifixion. La journée de sa mort, c'est une fête qu'on doit célébrer en l'honneur de l'Éternel. Puis c'est notre Pâques. Avant, la Pâques, c'était la Pâques des Juifs, parce qu'ils fêtaient cette journée-là pour leur raison qu'ils ont été sortis d'Égypte. Nous, on fête la Pâques parce qu'on fête la Pâques de l'Éternel, que Dieu y est venu en forme humaine, l'agneau de Dieu est mort pour pardonner nos péchés. Donc aujourd'hui, on fête notre Pâques. Dans 1 Corinthiens 5, 7, ça dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque a été immolé. Jésus n'est pas la Pâque de tout le monde. Il est mort pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui vont profiter de son pardon. C'est juste ceux qui vont à lui. Les autres, ils en sont privés. Ils mettent leur confiance dans leur religion. Nous, on met notre confiance dans la parole de Dieu. Tout va s'accomplir comme ça a été dit. Puis ça nous dit que Christ, c'est notre Pâque. Il a été immolé. Dieu nous dit de célébrer la Pâque en l'honneur de ce que Yeshua a fait. Dans 1 Corinthiens 5:8, qui est juste l'autre verset après, ça dit que Christ est notre Pâque, puis ça dit « Célébrons donc la fête, non avec du levain, mais avec un levain, avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté puis de la vérité. Mais célébrons donc la fête. » Ça veut dire qu'il nous dit de se réjouir puis de fêter la fête de Pâques, de Christ qui est mort, pardonner nos péchés. Les chrétiens, lorsqu'ils mangent le pain et le vin, comme qu'on a fait tantôt, on a partagé le pain et le vin, on annonce que nous croyons et participons au sang de Yeshua le Messie. Nous croyons que par sa mort et son sang qui était versé, nous sommes sauvés. Nous y croyons. Mais si on y croit pas encore, j'en parle pour que vous mettiez à y croire. Parce que c'est important que tous y croient. Si vous voulez vous rentrer dans la vie éternelle, vous n'avez pas le choix de croire ça. Si vous n'êtes pas rendu là, oubliez le reste, là. Pensez juste que Pâques, Jésus est mort sur la croix, puis il avait une raison, puis c'était pour vous sauver. Faut que vous mettiez votre foi là-dedans pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre chose qui sauve. C'est pas parce que vous êtes des bonnes personnes, parce que vous en faites encore des péchés. On est tous des pécheurs, même après 40 ans de vie chrétienne, on en fait encore. Mais c'est grâce au sang de Jésus, l'agneau de Dieu, nous autres, on ne l'a pas mis sur le cadrage, le sang, il est sur nous parce que on a cru et on l'a accepté comme notre sauveur. Dieu a versé son sang, puis le sang de Jésus peut nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Quand on fait la Sainte Cène, je l'ai lu tantôt, ça dit, après avoir rendu grâce, il l'a rompu, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Puis ça, il était à Pâques, il était en train de célébrer la Pâque juive en mangeant un agneau, mais là, après le repas, c'était à la sienne, sa Pâque, qui est en train de nous montrer là, son corps, son sang, le pain, le vin. Il dit ça, prenez ça en mémoire de moi pour vous en rappeler que c'est grâce à ça que c'est la nouvelle alliance. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, puis cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Dieu a fait une alliance avec nous. Si tu crois au sang du Messie, tu vas être pardonné. Tu vas être épargné de la colère à venir. Tu vas être épargné du jugement éternel. Puis il dit de faire ceci en mémoire toutes les fois que vous en boirez. Ça veut dire on le fait une fois par mois, prendre le pain et le vin pour se commémorer. Parce que c'est ce qu'il nous dit l'autre verset suivant. Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain puis vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Quand on le fait tantôt, on a annoncé qu'on croit en sa mort, qu'on croit qu'on participe à son corps, on a pris du pain, ce qui représente un seul pain, qui est Jésus, son corps qui était rompu pour nous, on participe à ses souffrances qu'il a eues pour nous, puis on participe aussi à son sang qui était versé, on l'a pour nous. Chacun de nous, quand on en prend, faut vraiment être sûr qu'on est vraiment dans le sens qu'on a fait la paix avec Dieu et qu'on l'a accepté. On peut pas faire semblant. Dieu voit les cœurs puis il sait si on est des vrais ou si on croit vraiment ou si on y croit pas. Mais il dit, chaque fois que vous allez le faire par la suite, vous annoncez sa mort jusqu'à temps qu'il revienne. Grâce au sang de l'agneau de Dieu, nous sommes maintenant préservés de la colère à venir. Dans Romains 5, 9, il dit, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Parce que ça se voit peut-être pas, mais ça se voit, là. C'est pas tout le monde qui le voit, mais Dieu est en colère. Oui, Dieu est amour. Mais Dieu, il est en colère, mais il se retient. Et celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3:36. Dieu est en colère, puis elle demeure sur les gens qui ne veulent pas se repentir. Puis s'ils meurent dans cet état-là, ils peuvent pas rentrer dans l'éternel. Leur péché les empêche d'entrer. C'est pour ça qu'il faut passer absolument par Jésus pour être lavé de nos péchés, puis que ce soit lui qui aille payer à notre place. Il devient notre substitut. Mais si tu crois au sang, tu es justifié, tu es déclaré juste, puis en plus, tu vas être sauvé par lui de la colère. C'est le même parallèle que le peuple égyptien qui n'ont pas été épargnés de la colère parce qu'ils n'ont pas eu de sang sur le cordonnage de porte. 2000 ans plus tard, le sang du Messie est encore aussi puissant pour pardonner, nous purifier et nous sauver. On est 2000 ans plus tard que Jésus est venu, puis on a été pardonnés, on a été justifiés, on a été purifiés, puis on est sauvés. Pour ceux qui y croient et qui le suivent, un jour, ils feront partie de son royaume éternel. On va faire ce qui a été annoncé dans l'Apocalypse, la multitude qui a été sauvée par le sang de l'agneau de Dieu pour faire partie de son royaume éternel. Dans l'Apocalypse, c'est le dernier verset que je vous lis aujourd'hui, dans Apocalypse 1, verset 5. C'est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Là, il dit, à celui qui nous aime, c'est Dieu, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Ça parle de nous là-dedans. C'est nous qui sommes les héritiers, pas à cause de nos mérites, c'est à cause du sang de Jésus. Si vous vous sentez pécheur, vous vous sentez indigne, faites juste demander pardon, puis le sang de Jésus vous purifie automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Croyez à la puissance du sacrifice de notre Sauveur. Autant que parmi les Juifs, il n'y a aucun des Juifs qui avait le cordonnage que par Dieu un membre de sa famille. Contrairement à tous les Égyptiens qui n'ont pas eu le sang sur leur cordonnage, ils ont tous perdu le premier-né dans toutes les maisons d'Égypte. Wow! Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour les sujets de réjouissance. On réalise encore plus, Seigneur, comment est-ce que tu es mort sur la croix, tu as versé ton sang, puis ton sang nous assure le salut. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvés. Il n'y a pas rien d'autre qui compte dans cette vie. Merci d'avoir fait de nous tes enfants, d'avoir fait de nous un royaume de rachetés, un royaume de gens qui vont vivre l'éternité avec toi. Seigneur, sois glorifié dans nos vies. Merci pour tout, puis on veut continuer à se réjouir avec un bon repas ensemble. Merci pour toute cette abondance. Puis bénis aussi le temps de louange après-midi. Ce qu'on veut, c'est encore te proclamer, t'élever, te glorifier. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.